rappelle que ma maman elle me disait souvent les Disney. Oui, c'était surtout les contes de fées.
Moi, c'était pas vraiment des contes, c'était plus des trucs un peu j'aime lire, un peu ils aimaient bien Claude Ponty et tout, ils aimaient bien me faire lire ça, mes parents. Ouais, ils aimaient bien les trucs bizarres en fait.
Il n'y a jamais d'histoire. Oh, par contre, il me donnait mon biberon.
Bah, je sais qu'on était abonnés à une espèce de revue là, qui s'appelait Mille et une histoires, un truc comme ça. C'était un peu un moment familial. Nos parents
dormir en mode ben ils nous racontaient une histoire.
Moi les quotidiens c'était plus quand j'ai commencé à apprendre à lire que je les lisais moi-même, mais ils m'accompagnaient un peu dans la lecture, genre Yokapi, enfin, j'étais abonnée à ça. Il y avait La chasse à l'ours, c'était un de mes livres préférés et je me souviens très bien que mes parents me lisaient le soir et ça m'endormait un peu.
Moi aussi je lis des histoires à ma petite sœur. Émilie Margot. Bah la démon, bah ça se finit mal encore.
Ça se finit mal ?
Bah oui, parce qu'en fait, c'est des épisodes. Il faut toute la collection sur la fin.
C'est des bons moments.
Mes parents, ils lisent mieux, déjà.
Même si on est un peu plus grand, tu sais lire et que t'es à côté.
Bah moi, j'aime bien qu'on lise des histoires, même si je sais lire.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Regarder ensemble dans la même direction, il paraît que c'est une définition de l'amour. Cette formule de Saint-Exupéry a été tellement répétée qu'elle est devenue tarte à la crème. Eh bien moi, ça me rappelle plutôt des moments de lecture. Oui, quand je raconte une histoire à un enfant, il est absorbé par les images, moi je lis le texte. Ou alors il suit le texte aussi, s'il sait déjà lire, et me signale la moindre erreur. On regarde ensemble dans la même direction, on est plongé dans le même livre. Et il faut bien le dire, ce qui se passe est souvent magique. Nous allons essayer de mettre des mots sur cette magie-là, celle de la lecture à voix haute, avec mes invités. Je vous propose de célébrer le lire ensemble à l'occasion du Salon du Livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis qui ouvrira ses portes la semaine prochaine. C'est la 37e édition de ce Salon de Montreuil, rendez-vous incontournable de la littérature pour les enfants et les ados. Vous entendrez aussi les conseils de Denis Chessou, notre dévoreur d'albums jeunesse. Ce sera Là tu lus mon petit loup autour de 15h50. C'est parti, la lecture, ça se partage.
Barbatruc.
Dorothée Barba.
Sur France Inter.
J'ai l'honneur de recevoir deux grands noms de la littérature jeunesse qui représentent à eux deux un lectorat très vaste, des bébés aux ados. Bonjour Lucie Félix.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes autrice et illustratrice. Vos livres sont des objets magnifiques qu'on a envie de manipuler avec tendresse et délicatesse et qui pourtant sont très solides parce que prévus pour être empoignés par les tout-petits. Alors j'en cite quelques-uns. La promenade du petit bonhomme, le bûcheron, le roi et la fusée, prendre et donner, le plus récent s'appelle Ariki. Toutes ces merveilles sont publiées aux éditions Les Grandes Personnes. Et vous êtes, Lucie Félix, la Grande Ours 2021. C'est vous qui avez reçu ce titre décerné chaque année par le Salon du Livre Jeunesse de Montreuil. Comment entendez-vous cette Grande Ours ? Plutôt l'étoile qui brille ou la maman ours ?
L'étoile qui brille, ça fait plaisir, hein, je veux pas le nier. Mais non, moi ça me fait penser à deux choses en fait, ça me fait penser au conte de Boucle d'Or et ses trois ours.
C'est la maman ours.
Et ça me fait penser aussi aux Trois Ours, qui est une maison d'édition qui a été pour moi une référence énorme dans mon parcours. Donc en fait, tout de suite j'ai pensé à ça, je me suis dit « ouais, génial ». Et voilà, ils font un super travail de livre d'artiste justement pour les enfants.
Ce titre de Grande Ours vient récompenser l'ensemble de votre travail. Vous n'avez même pas 40 ans, Lucie Félix. Sacrée consécration.
Merci.
On va parler de l'expérience de lecture que vous proposez avec vos livres pour les tout-petits et les toutes-petites. Timothée de Fombelle est avec nous également. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Merci beaucoup d'être là. Votre public à vous, c'est déjà lire, hein, ce qui n'empêche pas du tout de se faire lire des histoires à voix haute. Le deuxième tome de votre nouvelle trilogie, Alma, apparue il y a quelques jours chez Gallimard, L'Enchanteuse. Vos sagas précédentes, Toby Lolness ou encore Van Gogh, ont été lues par des millions d'adolescents et d'adolescentes, traduits en plusieurs langues. Alors on va parler ensemble de lecture à voix haute, mais j'aimerais d'abord savoir si vous écrivez à voix haute, Timothée de Fombelle. Est-ce que vous écoutez vos livres en les écrivant ?
Oui, je pense même d'ailleurs, avant même de me les lire, parce que c'est le test suprême, c'est ce qui fera que ça tient ou pas la route. Mais avant même, je pense que dans l'écriture, dans le frottement de la plume et malheureusement du clavier et le tic-tac du clavier, assez vite, parce que je passe assez vite du carnet au cahier puis à l'ordinateur, Il y a quelque chose, déjà, je suis dans une musicalité de la langue, de l'écriture, et donc je vérifie que ça tient debout et je teste. Oui, c'est vrai que j'écris le fameux gueuloir de Flaubert là, qui mettait à l'épreuve de l'oralité ces histoires. Je le fais, et je fais bien, parce que je rencontre des lecteurs qui le font aussi. Alors, heureusement que j'ai fait le crash test avant.
Alors, qu'est-ce que vous repérez à l'oral qui vous aurait échappé à l'écrit ?
Plein de choses. J'ai la chance là d'avoir plusieurs livres qui sortent quasiment en même temps, en livre CD et sur papier. Donc parfois je peux entendre déjà une lecture avant même que les livres soient imprimés. Pour moi, même la phrase, la syntaxe, c'est une construction, c'est du bâti. Et il y a choralement qu'on voit si les deux poteaux, deux bouts font que ça tient debout. Il y a que là qu'on devient aussi spectateur de ce qu'on a écrit, qui est sur le papier, qui nous appartient encore. J'ai entendu il y a pas longtemps la fin d'une histoire, il y a ce week-end encore, lu par des enfants très très jeunes, un petit conte qui s'appelle Le Capitaine Rosalie, qui se passe pendant la guerre de 14. Et j'avoue que j'avais des larmes aux yeux que j'oserais pas avoir tout seul dans mon cahier, alors que c'était ma propre histoire. Voilà. Mais elle avait été mâchée et digérée par ce garçon de 8 ans.
Incarné, interprété.
Voilà, incarné.
Vous incarnez tous les deux, Lucie Félix et Timothée de Fombelle, chacun dans votre style, le partage de la lecture, la littérature jeunesse en majesté, à l'occasion donc du salon de Seine-Saint-Denis qui se tient à Montreuil du 1er au 6 décembre. Et le thème du salon cette année, c'est nous. Juste nous, un petit pronom qui rappelle que la lecture n'est pas seulement une activité solitaire. Vous écoutez Barbatruc jusqu'à 16h.
Nous, on ira voir la mer, voir si les gens sont fiers. Imaginez Montello, bien qu'on n'ait rien su faire. On n'a plus rien à perdre, un peu de ventre et d'ego, et quelques langues à défaire pour les revoir se plaire. Nous, 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 nous on s'en fout de vous, vous pouvez prendre tout tant qu'on est. Voir si la lune est claire, de quelques têtes hors de l'eau, un monde où tout se perd. Demain c'est juste hier, un peu laissé sur le dos, un peu blessé par les pierres. Voulu perdre. Nous, 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 nous on s'en fout de vous, vous pouvez prendre tout tant qu'on est tendre. Nous, 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 nous on s'en fout de vous, vous pouvez prendre.
Julien Doré sur France Inter. La programmation musicale de Barbatruc est signée Jean-Baptiste Audibert. Émission en partenariat avec Bayard Jeunesse. Et j'en profite pour vous conseiller le nouveau numéro de Poppy, le magazine Poppy pour les tout-petits, qui propose dans ses pages ces jours-ci un calendrier de l'Avent Petit Ours Brun, incontournable en cette période de l'année. Nous célébrons la littérature jeunesse à l'occasion du Salon de Montreuil en Seine-Saint-Denis qui aura lieu du 1er au 6 décembre. Timothée de Fombelle et Lucie Félix sont mes invités. Et l'on se penche sur le lire ensemble, sur la façon dont on partage un livre, notamment en le lisant à voix haute. Lucie Félix, que sont vos livres précisément? Sont-ils des spectacles?
Alors, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent dans le livre. J'ai l'impression que le livre, c'est un objet qui a énormément de possibilités, et surtout avec les tout-petits. Donc c'est une des grandes raisons pour lesquelles je m'intéresse et je continue à m'intéresser. Je pense que j'ai pas terminé de m'intéresser aux tout petits.
Spectacle, ça vous va comme
alors
comme
spectacle, ça me va très très bien.
Je pense à celui-ci que je montre à Timothée de Fombelle. C'est un grand éventail. Il s'appelle Coucou.
Ouais.
Et c'est un livre qui se déploie dans la largeur avec des jeux de transparence, de couper, de coller, de matière.
Tout à fait.
Et
la
quand
lumière.
On le déplie, c'est un spectacle pour le bébé.
Ça, voilà. Donc moi, j'espère vraiment qu'on peut. Alors évidemment, chaque médiateur, que ce soit un professionnel ou un parent, va pas forcément s'en servir de la même manière. Mm-hmm. Moi, je travaille beaucoup avec des professionnels de la petite enfance, mais oui, j'espère vraiment que on essaye d'en mettre plein les yeux au tout petit avec toutes ces couleurs et ces lumières sur ce livre-là en particulier. Et puis non, j'ai un autre livre qui s'appelle La promenade de petit bonhomme, qui est pour le coup vraiment un spectacle. Là, c'est une comptine de doigts qui se joue sur le livre, avec l'idée de, comment dire, de rendre l'idée du récit qui n'est pas évidente à comprendre.
Alors voilà, le texte de ce livre, La promenade de petit bonhomme, est écrit à l'envers, en haut de chaque page. Et pour quiconque a déjà assisté à une lecture en bibliothèque ou en classe, on sait que c'est très compliqué de montrer
voilà,
le livre à tout le monde
le coup.
Et en même temps de lire le texte. Et ben là, il y a en haut de la page le texte à l'envers. C'est brillant, c'est tout simple.
Non, mais c'est vrai que
ça évite au lecteur ou à la lectrice de se tordre le cou et ça change tout.
Et le héros est la main du lecteur.
Voilà. Voilà, le petit personnage est la main du lecteur. Et donc, effectivement, pour un enfant qui parfois, moi, je me souviens très bien avec mon fils, quand il était question de comprendre qu'il y avait un récit, c'est-à-dire que mon personnage, d'une page à l'autre, c'est le même, c'est pas un autre qu'on rajoute, comme le petit lapin qui met son pyjama.
Le récit, ça s'apprend, Lucie Félix.
Écoutez,
cette
moi
idée
j'ai une histoire. C'est ouais. Mon expérience personnelle. Ouais. C'est pas simple de comprendre cette idée de la temporalité du personnage. Il a pris son parapluie, c'est pas un autre lapin avec un parapluie. Et donc du coup, je me disais, si tout simplement on joue le livre comme un petit spectacle, évidemment que le récit devient évident.
Ce qu'on voit dans tout votre travail, Lucie Félix, c'est l'idée du partage. Le livre, c'est un objet qui se partage entre l'adulte et l'enfant. Est-ce qu'il s'agit de désacraliser le livre?
Tout à fait. Moi, c'est sûr que je vois pas du tout les livres, comme des objets sacrés dans lesquels il faut s'aventurer avec respect. Non, surtout pas. Le livre n'est pas un objet sacré.
Timothée de Fombelle, vous rencontrez en ce moment beaucoup, je crois, de vos lecteurs et lectrices. Est-ce qu'ils vous disent qu'on leur lit ces livres à voix haute?
Oui, et souvent ils me le disent déjà dans le groupe de lecture. C'est-à-dire là, je me retrouve il y a ce week-end dernier avec un groupe d'une famille, une famille entière, trois enfants, deux adultes, et ils se lisent les uns aux autres chapitre après chapitre, comme à la veillée tous les soirs.
Ilise Alma
en l'occurrence, qui a l'avantage, c'est une trilogie un peu vaste qui pourrait ne jamais s'arrêter, mais qui va bien s'arrêter parce qu'il y aura une trilogie, il y en aura que trois. Mais voilà, 1500 pages d'aventure, et ça, c'est le feuilleton, et ce qui est étonnant, c'est qu'il me disait là que, par exemple, le livre circule de main en main, c'est-à-dire pas selon les chapitres, c'est l'un qui s'en empare.
Donc c'est pas seulement l'adulte qui lit aux enfants. Hein.
Non.
Tout le monde lit à tout le monde.
Ouais, et ça, je l'observe, j'écris de temps en temps pour les plus petits, et puis j'ai eu une plus petite à la maison aussi, et je vois que ce moment où l'enfant dit, mais attends, je prends le relais là, c'est moi qui vais te lire une histoire. Il y a un truc qui est un peu troublant, un peu une perte de pouvoir. Quand même, le livre, c'est celui qui lit a le pouvoir un peu. Il y a une, mais c'est celle de l'enfant qui prend son envol, quoi. En l'occurrence, à 6 ans. Et puis la fois d'après, c'est l'étape bien plus terrible et tragique encore. C'est t'as pas besoin de me lire une histoire. Je lis tout seul.
Quel effet ça vous fait en tant qu'auteur d'apprendre qu'on se lit vos histoires de la sorte?
Ça me bouleverse parce que c'est quelque chose qui rejoint une tradition, mais qui n'a pas de début, c'est-à-dire cette histoire, l'oralité, là en plus, alors peut-être Alma, qui a ses racines dans un récit qui part d'Afrique. C'est l'histoire d'une jeune fille prise dans l'Atlantique de la fin du XVIIIe siècle. Elle a grandi dans sa vallée d'Afrique et c'est autour de l'esclavage, ce crime qui a duré 400 ans. Et j'ai vécu un peu en Afrique quand j'étais enfant et je sais que l'origine de cette histoire, c'est là-bas. Donc vraiment, quand l'oral prend le relais de l'écrit, d'ailleurs l'écrit, j'aimerais me passer de l'écrit, hein. J'aimerais me passer de ces petites pattes de mouche là qu'on fait, qu'on aligne sur une... J'envie, mais tellement, Lucie, de travailler en 3D, de travailler dans l'espace, travailler avec la transparence, de travailler avec des objets qui se déplacent, travailler même avec la... Moi, je fais ces manuscrits un peu austères.
C'est austère, un roman comme ça, sans... Il y a des illustrations quand même. Magnifique illustration signée François Place. Ouais. Mais c'est vrai que c'est plus austère que les livres-objets de Lucie Félix. Lucie.
Non, alors moi je suis pas du tout d'accord, je trouve que les mots c'est génial. Je pense que tu fais semblant en fait de dire que c'est super, je ne te crois pas du tout.
Écoutons des enfants et des ados. Notre reporter Juliette Proutot a promené son micro dans les rues de Nantes pour leur parler de lecture à voix haute et notamment des différences avec la lecture silencieuse, la lecture dans sa tête. Ce sont pour beaucoup d'entre eux des souvenirs de petite enfance, mais pas seulement.
J'aimais bien... l'intonation des histoires, les personnages, les images. Et après, ça faisait des rêves. T'avais l'impression d'être dans le livre.
C'est des bons moments.
C'est bien parce que j'aime bien.
Quand il n'y a pas d'image, on peut imaginer comme on veut les personnages, les décors. Ça, c'est bien, je trouve. On imagine à notre image, genre tout ce qu'on souhaite.
Je sais que moi, je prends plus le temps de poser les phrases plus lentement quand je lis. À haute voix que quand je lis dans ma tête, parce que parfois on lit un peu en diagonale et je pense à plein de choses quand je lis dans ma tête. Et parfois je peux me rendre compte que je suis partie dans des sujets et j'ai un peu oublié ce que je lisais et j'ai lu sans lire en quelque sorte. Alors que quand on lit à haute voix, c'est un peu différent parce qu'on on prend plus conscience de ce qu'on est en train de lire, je trouve.
Concentré. Ça permet vraiment de s'accrocher à ce qu'on lit et de comprendre encore plus, je trouve. Ça rentre dans la tête, c'est plus immersif de lire à haute voix. T'as plus le temps de comprendre ce que tu lis et puis bien l'interpréter et tout, alors que quand tu lis dans ta tête, souvent t'as limite tu sautes des mots et du coup justement des fois on reprenait nos parents parce que des fois ils se trompaient quand ils lisaient ou des trucs comme ça. Et vu que on lisait avec eux et ils nous apprenaient aussi un peu et si tu fais la liaison en fait. Et tout. Et après je sais pas, c'est juste on faisait de moins en moins et à la fin on lisait tout seul quoi. Et on avait nos livres et du coup on les lisait nous-mêmes.
C'est plus immersif de lire à haute voix, nous dit cette adolescente. Qu'en pensez-vous, Lucie Félix ?
En fait, moi j'ai l'impression que c'est l'intention dans l'idée que quand on lit à voix haute, en général c'est pas pour soi, on le fait parce qu'on est avec quelqu'un et quand on est là pour transmettre justement, c'est ce qu'on disait, on fait un petit peu attention à ce qu'on est en train de dire en général, on essaye d'être quand même vraiment disponible et j'ai l'impression que c'est plus dans cette intention.
Vous avez, vous, des souvenirs d'enfance, de lecture à voix haute, d'histoires qu'on vous a racontées ?
Beaucoup, beaucoup, puisque mes parents nous lisaient tous les soirs une histoire avec mon frère, donc c'était génial, c'était un moment... Je pense que c'est ça qui a créé chez moi l'amour des livres, ça c'est sûr, c'est ces moments d'intimité.
Et vous, Timothée de Fombelle ?
Moi j'ai des souvenirs fondateurs, vraiment, et d'avant la lecture par moi-même, d'avant le déchiffrage, d'avant même comprendre ce que c'est que l'écriture. J'ai en particulier un souvenir de tout petit, je peux le dater, parce que j'ai vécu une année au Maroc quand j'avais 4 ans, 5 ans. Et on était avec mon père et mon frère, ma mère était partie parce qu'elle allait accoucher d'un petit garçon, Nathanaël. C'était assez émouvant d'être seul sans sa mère. Et mon père, tous les soirs, nous lisait Le Petit Prince, tout simplement. Et je me souviens de l'impression précise que j'avais dans la journée d'un petit organisme endormi qui était le livre posé et attendait que la nuit tombe. Et il se réveillait le soir dans la voix de... Je me rappelle un petit salon qu'on appelait la Fosse aux Lions, qui était juste un tout petit salon, qui avait une impression de... Il était un peu en creux, comme ça, dans la maison. Et on se blottissait là, dans la nuit, et il nous racontait cette... Et donc, j'ai toujours eu l'impression que le livre était un petit être vivant qui était tapis, endormi. Je n'osais pas le toucher, je n'osais pas l'ouvrir.
Le livre est un organisme vivant, ça fait un lien évident avec votre travail, Lucie Félix.
Ouais.
Vous pensez d'abord aux gestes, j'imagine, l'objet livre.
Je pense à quel type d'implication j'ai envie de créer, quel type d'interaction entre l'enfant et le livre, et du coup entre moi et l'enfant à travers le livre, si vous voulez.
Allez, on poursuit ces échanges sur le partage de la lecture juste après les Australiens de Parcells sur France Inter.
Barbatruc.
Barbatruc est une émission réalisée par Christophe Humbert avec Charles Westrelin et Elisabeth Collet à la technique, préparée par Margot Page et Mao de Butler. Je vous invite à nous écrire, à commenter, à réagir, chers auditeurs et auditrices, sur le site de France Inter, à la page de l'émission. Et je voudrais remercier l'auditrice qui nous a envoyé un courriel pour parler des crottes de nez de mammouth. La semaine dernière, en effet, on parlait cuisine. Comment transformer l'expérience de la cuisine avec les enfants en un jeu. Et je conseillais notamment de donner des noms aux recettes qu'on invente, de baptiser les plats. Et cette auditrice, Dominique, nous a écrit ce mail. Elle a inventé des courges dauphines, qui sont donc des courges cuites comme des pommes dauphines, j'imagine. Elle les a baptisées les crottes de nez de mammouth. C'est mon plat signature de maman, écrit-elle. Merci beaucoup, Dominique. J'aime beaucoup cette histoire. Et de la cuisine, on passe à la lecture à voix haute. Nous parlons du partage de la lecture cette semaine entre les adultes et les enfants à l'occasion du Salon de Montreuil avec Lucie Félix, qui est la grande ours de ce salon 2021, et avec Timothée de Fombel.
Vous préfériez quand vos parents y faisaient des voix différentes selon les personnages ou alors qu'ils gardent la même voix pour tous les personnages ?
Qu'ils fassent des voix différentes.
Des voix différentes ?
Oui, c'est marrant. Bah, ça fait plus ressortir les personnages.
On n'imite pas la voix des personnages. Bah parce que je sais que maman, elle se ferait mal à la gorge. Donc changer tout le temps les deux secondes les voix. Comme une souris. Au bout d'un moment, ça fait mal.
Bah moi, je préférais quand les personnages, ils avaient les voix différentes.
parce que c'était mieux, l'histoire elle était plus...
Elle donnait plus envie de l'écouter.
Ouais, elle donnait plus envie d'être écoutée.
Oui, moi je préférais quand il changeait de voix et je me souviens d'une histoire, je sais plus comment ça s'appelait, mais c'était un ours qui toquait à la porte et il y avait plein d'animaux comme ça qui venaient toquer à la porte et à chaque fois c'était des animaux différents, donc ils faisaient des voix différentes et on était là avec ma sœur, on avait un peu peur parce qu'on se demandait qui était derrière la porte, donc voilà, ouais. C'était un peu la panique et le fait de faire des voix différentes, ça mettait plus de peps à l'histoire, moi je préférais.
C'est plus immersif en fait, quand les parents ils font des voix différentes, on est plus dedans.
Voilà, propos recueillis par Juliette Proutot. Je trouve ça très sympa de penser à la santé des cordes vocales de la maman qui fatigue à force de changer de voix. Sujet important hein, que celui de l'interprétation. Timothée de Fombelle, vous venez du théâtre, vous avez écrit et mis en scène du théâtre. Quelle est la différence entre la lecture à voix haute et le théâtre?
Je pense que la lecture à voix haute reste... Tout à l'heure, il y a une jeune fille qui disait le mot « interpréter ». Mm-hmm. Interpréter, ça a deux sens. Ça a le sens dire, prononcer, jouer un texte. Et il y a interpréter comme un interprète d'une langue étrangère. C'est-à-dire vraiment traduire, transcrire, transformer, finalement. Et dans le théâtre, on est déjà dans une forme de traduction. Et pour moi, la lecture à voix haute a quelque chose de plus modeste qui est de faire entendre le texte, faire résonner le texte. Alors c'est peut-être parce que je suis du côté de l'auteur et que je veux que le lecteur
le respecte
et laisse la liberté du jeune auditeur qui écoute et qui doit, pour moi, alors, mais ça a pas l'air d'être très populaire là dans votre cours d'école de Nantes, mais qui doit faire l'interprétation et les grosses voix tout seul.
Alors faire la grosse voix, il y a beaucoup d'enfants qui détestent aussi ça parce que ça donne l'impression que l'adulte, notamment le parent qui lit, et quelqu'un d'autre, ça peut être un peu impressionnant, un adulte qui change sa voix quand il lit des histoires, Lucie Félix.
Ouais. Moi, j'aimais bien que mon papa fasse « je soufflerai et je cognerai ». Je trouvais ça rigolo. Mais je comprends, oui, tout à fait, mais c'est vrai que moi, j'ai tendance à facilement malmener peut-être un peu les textes des auteurs que j'aime bien. J'interromps facilement pour expliquer un mot, parce que j'ai l'impression que mon enfant n'a pas compris. Faire des voix, peut-être pas exagérer tout le temps, pas trop. Mais
oui. Dans ton livre, La promenade de petit bonhomme, il y a des épreuves. Et à un moment, il se blesse. La main qui se promène dans le paysage se blesse. Aïe. Et là, il y a une liberté totale du lecteur adulte ou grand frère ou grande sœur de mettre ses émotions là-dedans.
Mais ceci dit, distinguer le théâtre de la lecture, ça permet de moins mettre de pression sur les épaules du parent qui lit. Oui, on n'est pas des comédiens et des comédiennes.
Ça, c'est sûr. Tous les parents sont les meilleurs lecteurs du monde. Ça, vraiment, faut se mettre ça dans la tête. C'est-à-dire, sincèrement, pour l'enfant, il y a pas. C'est Gérard Philippe qu'on a devant soi ou Jeanne Moreau. Voilà.
Vous avez un profil scientifique, Lucie Félix. Oui. Vous avez un master en biologie de l'évolution. Que nous disent les neurosciences sur ce moment partagé entre l'adulte et l'enfant devant un livre, en lisant un livre, se concentrer ensemble sur un même objet, ça n'est pas rien.
Oui, alors bon, je vais pas faire celle qui est spécialiste de tout ça, je ne suis pas du tout neuroscientifique, ni psychologue, ni rien. En revanche, je lis ce genre de littérature, et donc il y a ce psychologue, moi, dont le travail m'intéresse beaucoup, qui s'appelle Michael Tomasello, donc j'encourage les gens à les voir, qui s'est vraiment intéressé à ce moment très 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 précis de la petite enfance où on suit les regards.
L'attention partagée.
Voilà. On suit le regard de l'autre. C'est-à-dire qu'on est capable de regarder, en fait, tous les deux au même endroit. Et tu regardes quelque part, et le petit bébé humain, il est capable de voir où regarde l'autre. Alors que les autres primates, non. Et si le visage entier se tourne, oui, le petit bébé singe va regarder. S'il y a juste les yeux, non, il ne va pas regarder. Et le fait de pointer du doigt aussi, visiblement, est une de nos grandes spécialités. Donc lui, il dit, voilà, tout ça, c'est quoi en fait? C'est ça, c'est focaliser une attention sur la même chose à deux personnes. Et c'est la base de notre communication.
Donc lire un livre à un bébé, à un tout petit, ce n'est pas seulement lui faire apprivoiser la lecture et en faire un grand lecteur, c'est aussi ce moment très important dans son développement, tout simplement, qui est se concentrer ensemble sur quelque chose.
C'est ça, je pense que ça peut se faire sur tout, en fait. Mais le livre, quel outil particulièrement adapté, en fait. On se dit, ah là là, ça tombe en plein dans le mille.
Timothée de Fombelle.
Je pense que c'est être lire pour soi d'abord. C'est-à-dire on est un bon lecteur pour l'autre si on lit pour soi. Moi, je remarque quand je lis à un enfant, il regarde mes yeux et il regarde si j'y crois. Ouais, ce partage, il passe par le fait de pas mentir et de croire aux histoires. Et puis, je pense que il y a tout simplement ce moment, cette parenthèse qu'est la lecture. La lecture, ça reste le temps incompressible, le temps qu'on peut pas. C'est du temps. En somme, voilà, le soir, on dit, est-ce qu'on a le temps de lire une histoire? C'est quelque chose, un grand débat. Est-ce qu'on ait le temps ou pas, il faut trouver le temps, sinon la vie ne sert à rien, quoi, si pour lire une histoire. Donc,
ça arrête le temps.
Ça arrête le temps, ouais, c'est vrai.
Il y a une histoire que vous ne publierez jamais, je crois, Timothée de Fombelle. Une histoire que seule une personne connaît, et c'est vraiment trop injuste. C'est
oui,
votre fille.
C'est vrai. Alors une histoire sans fin parce que il suffit qu'on se retrouve dans un train, dans une voiture et je la continue. J'ai fait une petite pause parce qu'elle a 16 ans et que elle a d'autres histoires à entendre, mais elle m'a interdit. Je sais pas comment vous savez ça, quoi, à qui j'avais dit
j'ai
ce secret.
J'ai lu 2-3 articles d'accord, sur vous avant que vous veniez.
Eh bien, j'ai cette histoire le masque rouge. Alors là c'est du vrai feuilleton. Autant j'ai tendance à bâtir mes histoires avec un début, une fin et de savoir où je vais et je sais la fin de mon troisième tome. Autant celle-là, elle s'étire, c'est du héros récurrent, je ne sais pas jusqu'à quand vieillira le masque rouge.
Mais c'est écrit quelque part ou c'est 100%
oral?
Non,
100% oral. Et avec, quand par hasard ça m'est arrivé de l'été, dans une voiture, de conduire en racontant cette histoire, et je sentais la torsion du cerveau pour écrire. Moi qui suis toujours à retravailler mon texte, à prendre le temps d'écrire, à nouveau le temps d'ailleurs, là tout à coup je dois tout de suite, les mots se gravent en or au fur et à mesure que je les dis, et c'est épuisant, mais c'est merveilleux et c'est un pacte d'amour avec ma fille.
Barbatru que c'est Dorothée Barba sur France Inter.
It's me, such a long week, so much crying.
C'était l'immense Kate Bush sur France Inter avec un morceau intitulé In Search of Peter Pan. Nous célébrons la littérature jeunesse à l'occasion du salon de Montreuil dans Barbatruc cette semaine. Timothée de Fombelle et Lucie Félix sont mes deux invités. Le lire ensemble, le partage de la lecture, voilà notre sujet. Et j'ai entre les mains votre livre le plus récent, Lucie Félix. Je disais tout à l'heure que vous étiez diplômée en biologie. Je me demande si les héros de Hariki aux éditions des grandes personnes ne seraient pas des bactéries.
Ce sont des bactéries.
Des cellules en tout cas, des machins qui bougent sous les doigts de l'enfant qui manipule le livre.
Oui, ils viennent tout droit de mes cours de biologie végétale, je pense.
Est-ce qu'on est censé expliquer à l'enfant que c'est une bactérie? Pas du tout.
Oui, moi, en fait, on parlait de partage de la lecture. Mmh. C'est vrai que moi, j'ai un peu tendance à compter énormément sur les adultes qui amènent le livre aux enfants.
Et tout ça par le jeu, parce que ce sont tous des jeux, livres.
Par le jeu, parce que voilà, pour les tout-petits, c'est un moyen qui est tellement pratique, j'ai envie de dire, de retenir leur attention.
Il y en a un en particulier que j'aime beaucoup parmi vos livres, Lucie Félix, il s'appelle « Prendre et donner ». Alors le principe, c'est qu'on doit enlever un petit élément, une forme géométrique d'une page.
Oui.
Et je le décroche, vous voyez, c'est très sonore, c'est radiophonique en diable. Mmh. Et le mettre dans la page d'après. Timothée de Fombelle aussi est emballé par ce bouquin.
Ouais, je suis emballé par l'aventure et le risque qu'est le fait de prendre la pièce d'un côté sur la page de droite et d'aller la mettre de l'autre. C'est-à-dire on va tourner la page, c'est quand même quelque chose pour un enfant de tourner une page et on va le mettre sur l'autre. C'est vraiment faire ce passage que fait l'enfant, on lui fait faire un objet, et ça m'impressionne. Et aussi que ces objets soient un peu volants, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas raccrochés par un cordon, mais qu'ils soient là, qu'il y ait cette confiance de l'objet précieux.
On risque de les perdre,
Non, on ne les perdra pas.
Et le tout est accompagné de simples verbes, apparaître, disparaître, découvrir, se couvrir, allumer, éteindre. Lucie Félix, comment vous l'avez pensé, ce bouquin, Prendre et donner?
Ce livre, écoute, Timothée, c'est parfait ce que t'as dit. Sur la page, parce que, en fait, c'est vrai que moi, je me suis fait la réflexion. Je passe beaucoup de temps à observer les enfants, et donc les miens en particulier, mais aussi ceux avec qui j'ai
d'excellent
la chance
cobaye.
De travailler. Excellent. Et donc, c'est vrai qu'avec mon petit, les premières choses, quand je dis petit, c'est 18 mois, c'est du petit. Les choses qu'il adorait faire, c'était de s'emparer cet objet livre. Donc, saison, Blex Bolex, petite pub pour saison, expliquer ce que j'adore. Et c'est un livre avec beaucoup de pages. Et donc, il tournait les pages,
Magazines aussi, ils prennent les magazines des adultes et ils tournent les pages.
Ce bonheur de simplement de tourner des pages et de comprendre comment c'est fichu cette affaire. Et petit à petit, là-dessus, on va construire la temporalité, le récit, et patati et patata. Mais c'est vrai que moi, du coup, je me suis dit quel acte primordial de lecture que de tourner une page, quoi, pour un tout petit. Donc, je me suis intéressée beaucoup à ça, pas seulement sur ce livre-là, mais aussi avec deux yeux et après l'été. Et ça marche en fait. Et ils aiment bien parce que ce qui se passe quand on tourne une page, on avance, on découvre quelque chose.
Vous nous parliez tout à l'heure, Timothée de Fombelle, de ces familles qui se lisent ensemble, les adultes aux enfants, les enfants aux adultes, les enfants aux enfants. Vos romans, est-ce que vous savez qui tourne les pages ?
Ah, ça c'est. Je pense que là, c'est celui qui parle qui tourne. Je crois que là, il y a ce partage des rôles.
Je crois que la position du corps de la personne qui lit est quelque chose qui vous intéresse beaucoup. Ah, je l'ai lu dans Neverland, votre livre
pour les grandes personnes,
c'est le seul d'ailleurs.
Oui, c'est vrai. L'enfant qui lit les pieds au mur, l'enfant qui a le livre posé sur la moquette, le corps sur le matelas et les pieds sur le mur. Enfin, il y a vraiment toutes les.
Mon fils lit en s'habillant. C'est vraiment très bizarre.
Voilà. Alors on passe la chemise, donc le livre passe dans l'autre main. Et ça, c'est vrai que j'ai un rêve. Et il paraît, je crois qu'à Montreuil, on va voir ça la semaine prochaine, mais à Montreuil, il y a un espace autour des positions de lecture. Je suis très, très, très curieux parce que c'est quelque chose qui me travaille et sur lequel je prends des notes depuis des années parce que je trouve ça incroyable. En fait, la position et l'enfant, les vêtements sont comme une sorte d'enveloppe vide parce que l'enfant, il est ailleurs. Il est parti, il est au bord de la mer dans l'histoire qu'il est en train de lire, et je suis très très intéressé par ce sujet, c'est vrai.
La position de lecture est aussi un enjeu lorsqu'on lit une histoire à un enfant. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux parents qui nous écoutent? Comment s'installer pour lire?
Alors tous les livres sont pas prévus comme ceux de Lucie Félix, avec le texte au dos et tout ça. Donc c'est vrai,
vous allez le texte à l'envers pour
vous
lire.
Vous commencez par dire regardez ensemble dans la même direction. C'est quand même la position la plus classique. Et puis c'est pas désagréable d'avoir les épaules contre les épaules et de sentir la vibration de l'autre. Mais il y a mille autres manières. Il y a une version plus théâtrale, debout dans la chambre avec l'enfant assis sur son. Je crois que allons-y. Je pense que là il y a les rituels de chaque famille.
Il arrive parfois qu'on ne lise plus d'histoires à ceux et celles qui ont appris à lire. Écoutons à nouveau des enfants. Juliette Proutot à Nantes leur a demandé de parler de leur expérience de lecture à voix haute.
C'est pas parce qu'on a commencé à apprendre à lire que tout s'est arrêté. Je pense que ça s'est fait tout doucement.
Petit à petit, ouais.
Ouais.
Au fur et à mesure, oui, on lisait ensemble et après j'ai commencé à lire tout seul de mon côté.
Et pourquoi est-ce que tu crois qu'à un moment on préfère lire dans sa tête ?
Maman, après, je lis toujours avec ma mère, donc. Et le plus souvent, c'est elle qui lit.
Toi, t'écoutes ?
Oui.
Même si tu sais lire.
Même si je sais lire.
Toi, tu préfères quoi?
Lire tout seul. Bah, parce que c'est moi qui lis. Bah, tu lis plus vite.
En classe, ça, on est obligé, les espèces de lectures communes. Mais sinon.
Bah, moi, c'est un peu étrange, mais parfois, quand je lis des. Enfin, c'est assez rare, mais il y a certaines fois où je lis des poèmes. Et je trouve ça mieux de le lire à haute voix parce que enfin, faire les pauses et articuler bien les, enfin, le nombre de vers, enfin, de syllabes, tout ça dans les vers. Et du coup, je les lis à voix haute. Mais pour moi-même, enfin, je ne fais pas des lectures à ma famille de poèmes.
Mais sinon aussi, il y a un peu une transmission pour les petits. Dans la famille, par exemple, des petits cousins, tout ça, on fait un peu le rôle que nos parents avaient et on fait la lecture.
Et ça, vous aimez bien?
Oui.
Oui,
oui,
oui.
C'est un peu nous comme quand on était petites, quoi. Donc ça, forcément, ça rappelle un peu ça. Quand quelqu'un nous racontait une histoire, quoi, et puis tu regardais les images et tout.
Moi, mes cours pour apprendre, je les récite à voix haute. Genre, même des fois, je m'enregistre et je les réécoute. Mais sinon, des histoires, des livres, des romans, je les lis jamais à voix haute. Sauf s'il y a des passages que je veux genre lire à mes parents, mais sinon, non, c'est hyper rare. Je pense que ça va plus vite quand je lis dans ma tête. Je sais pas, à voix haute, peut-être tu bégayes un peu, tu prends plus de temps.
Ouais, c'est vrai, parce que par exemple, si on lit en cours, des fois on bute sur des mots, alors que dans notre tête, on les lit les mots. Alors que quand il faut le dire à voix haute, c'est peut-être plus compliqué. On choisit peut-être de faire les choses plus simplement en lisant juste dans notre tête.
Alors voilà, ça c'est l'immense avantage de la lecture pour soi, de la lecture intérieure, de la lecture dans sa tête, Timothée de Fombelle. On ne trébuche pas sur un mot dans sa tête.
Ouais, et on passe sur ce qu'on comprend pas. Finalement, moi, je remarque qu'il y a des adultes qui parfois ne suivent pas dans mes livres, parce que les enfants, ça leur pose pas de problème. Ils sont sans arrêt à dépasser des choses qui leur échappent, mais ils continuent leur chemin et ça les inquiète pas. Et l'adulte ne sait plus faire ça.
On n'a pas précisé d'ailleurs à partir de quel âge vos romans, notamment Alma, plutôt 10-11 ans.
Oui, à partir de 10-11 ans, mais sans aucune limite. Ouais, c'est plutôt dès 10-12 ans jusqu'à 110-112 ans.
Je pense à cette héroïne de votre saga, ces romans d'aventure donc, qui se déroulent au XVIIIe siècle, sur fond d'esclavage et de lutte pour l'abolition. Alma essaie de réapprendre à n'avoir besoin de personne, écrivez-vous dans ce tome 2. Elle chante encore, bouche fermée. La trace du chant s'est installée en elle à côté de celle de la chasse. C'est un chant intérieur. Elle essaie de l'arrêter avant qu'il vienne sur ses lèvres. Elle ne sait pas comment il est entré en elle, soudain, au creux du navire. Est-ce que vous voyez des liens entre le chant et la lecture, Timothée de Fombelle? Après tout, on peut aussi chanter dans sa tête ou chanter à tue-tête.
Oui, c'est vrai que moi, je chante mieux dans ma tête. Je chante magnifiquement dans ma tête. Je tiens à prévenir les autres et ceux qui croient que je ne sais pas chanter. Et c'est vrai, de toute façon, dans sa tête, c'est l'endroit où on peut être le meilleur, quoi. Donc ça, c'est quand même assez extraordinaire. Mais le lien avec le chant, oui, d'abord, les histoires qu'on raconte et le chant, ça a été la même chose pendant, dans Homère, chaque partie du livre de l'Odyssée s'appelle des chants. C'était la même chose. Je crois que ça vient exactement du même endroit.
C'est une vibration
et un récit aussi et quelque chose qui nous oblige à nous accrocher au mât pour résister.
Vous avez été longtemps le parrain d'un concours de lecture à voix haute qui s'appelle Les Petits Champions de la Lecture et qui a toujours lieu d'ailleurs. C'est la 10e édition cette année. Les candidatures sont ouvertes pour les élèves de CM1 et de CM2 jusque début janvier 2022. J'invite les élèves à souffler l'idée à leur enseignant ou à leur enseignante. Quel souvenir gardez-vous de cette expérience, Timothée de Fombelle ?
J'ai adoré parce que j'ai trouvé que c'était le moyen le plus simple de non seulement d'accéder aux livres, mais de devenir le porte-parole et l'ambassadeur des livres sans être un gros lecteur. C'est pas en fonction de sa capacité à comprendre un livre.
Les petits champions de la lecture ne sont pas des gros lecteurs.
Non, parce que c'est parfois le garçon au fond de la classe, mais qui, puisque c'est de la lecture à haute voix, 3 minutes, défendre un texte pendant 3 minutes, simplement lire, être l'interprète de ce texte et de l'auteur qui est derrière. C'est pas toujours les meilleurs. Moi, j'ai vu, j'ai été dans les classes, c'est pas toujours les plus gros lecteurs. Mais en revanche, après, il veut être quand il est nommé petit champion pour sa classe, pour la finale régionale, puis nationale sur la scène de la Comédie Française au mois de juin. Là, il est obligé de se mettre à lire parce qu'il faut, il a un truc sur les épaules qui est importable.
On gagne en assurance, en confiance en soi. Et puis, c'est une manière aussi de valoriser ses propres émotions finalement, en les partageant.
en fait, ses propres émotions, quand on les retrouve dans le livre, on doit se servir de ce qu'on a vécu soi pour transmettre ce que l'auteur a voulu mettre. Donc, tout à coup, on est le relais, on est l'allié, on est celui qui continue l'histoire qu'a écrite l'auteur. Et ça, je le sentais quand je rencontrais les jeunes lecteurs qui lisaient mes textes, justement, à la finale de la Comédie française. J'étais tremblant parce que ça dépendait d'eux. C'est eux qui allaient me faire gagner. Oui,
oui. C'est émouvant quand c'est votre texte, évidemment.
Ah oui, très émouvant.
Lucie Félix, il faut absolument qu'on dise quelques mots sur ce livre qui est de saison. Le bûcheron, le roi et la fusée avec des jolis sapins qui deviennent des fusées. Il suffit de passer sa main dessus.
C'est un livre que j'aime bien parce que en fait, il est né complètement dans les classes. Et on parlait d'oralité, on parlait de raconter des histoires, et c'est vrai qu'avec des classes de maternelle, bien souvent, j'amène des choses très minimalistes, c'est-à-dire des grandes feuilles de couleur et des formes géométriques, donc des triangles, des ronds, des carrés, et on raconte des histoires avec ça. Mais en fait, le truc, c'est que je leur explique, c'est qu'on va en raconter une. On pourrait, avec les mêmes formes, en raconter 10, 30 différentes, donc on va en choisir une. Et en fait, petit à petit, de classe en classe, cette histoire-là s'est mise sur pied. Parce qu'au début, je partais un peu sans filet. Puis c'est vrai que les histoires...
En maternelle, ça part un peu dans tous les sens.
Mais non, mais quand on invente une histoire, comme on disait Timothée, c'est hyper difficile d'inventer une histoire comme ça. Ouais. Donc ça peut être bancal, on retombe pas forcément très bien sur nos pieds, et puis on est déçu, on se dit zut. Il y a un jeu que j'aime bien faire avec mes enfants, parfois, c'est histoire vraie ou histoire inventée. Donc il faut raconter une histoire. Donc voilà. Et les enfants, après, donc chacun notre tour, on voit, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est inventé? Exactement, c'est le but. Mais voilà, oui, avec l'esprit critique toujours en tête chez moi, c'est l'obsession. Mais du coup, on voit à quel point finalement, raconter une histoire pour qu'elle soit crédible et tout, c'est hyper dur. Ouais.
Donc le bûcheron,
du coup, il est né comme ça. Il est né comme ça, de fil en aiguille, de classe en classe. Cette histoire a fini par tenir debout et les enfants, je voyais qu'avec cette histoire, j'arrivais à avoir une attention soutenue de la part d'un groupe de 32 enfants de maternelle.
Alors qu'elle venait de même. Le bûcheron, le roi et la fusée, c'est un livre délicieux, édition Les Grandes Personnes. Encore des livres, toujours des livres pour les enfants. Voici à présent les conseils de Denis Chessou avec deux prénoms au programme cette semaine, Nino et Joséphine, un doudou et une artiste. Bonjour Denis.
Dorothée Barbaz en France Inter. Là tu l'es, mon petit loup.
Oui, bonjour Dorothée, bonjour à tous. On commence par Nino de Anne Brouillard aux éditions Les Éléphants à partir de 3 ans. C'est arrivé en pleine promenade.
Personne n'a vu Nino tomber. Simon dormait.
Il a glissé de la poussette sans que personne ne s'en rende compte.
Papa et maman regardaient les arbres. Mais personne, vraiment ?
Heureusement, Lapin était vigilant et s'est empressé de demander à Nino s'il s'était fait mal. Il invite Nino pour une tasse de thé dans son terrier avec son voisin Écureuil.
« Tu vis dans une maison d'humains ?» demande Écureuil.
Nino habite effectivement dans une maison familiale au cœur du village.
« L'autre jour, dit Lapin, j'ai reçu une lettre d'un enfant qui voulait transformer un champ de pommes de terre en champ de frites. Je préférerais qu'on plante un champ de carottes. »
Le thé et la tarte aux carottes engloutis, Nino est ensuite convié dans le foyer d'Écureuil.
« Écureuil a une très belle vue sur la forêt. Sa maison est remplie de provisions. Mais Nino n'a vraiment plus faim. »
C'est au tour des mésanges noirs de réclamer la compagnie de Nino, décidément très populaire. Et en prenant de la hauteur avec ses mésanges, il peut observer le village en dessous de lui.
Il se demande laquelle de ses maisons est la sienne.
Et au pied de la forêt, après, Nino se sent d'un coup bien seul. Surtout qu'une respiration inquiétante se fait entendre à côté de lui.
N'aie pas peur, dit Renard. Et viens, je t'emmène faire le tour de la forêt.
Il ramène Nino au terrier de Lapin pour qu'il y passe la nuit, protégé de la pluie. Quand le soleil finit par se lever, c'est Écureuil qui le réveille.
Vite, crie-t-il à Lapin et Nino, Simon arrive.
Il faut faire vite.
Nino se couche sur le sol, à l'endroit même où il était tombé de la poussette.
Nino retrouve alors Simon, et le petit garçon se sent bien heureux d'avoir retrouvé son précieux doudou. Alors Anne Brouillard imagine ici la rencontre entre un doudou perdu et les animaux de la forêt. Et celui qui est pourtant le gardien des nuits, des enfants, se révèle à son tour peu rassuré dans le royaume de l'obscurité.
heureusement, il peut compter sur la gentillesse et l'amitié des animaux qui veillent sur lui.
Alors c'est une façon pour Anne Brouillard de raconter dans ce livre que la nuit peut aussi être synonyme de réconfort, en plus d'être celle qui laisse l'imaginaire s'épanouir. Donc Nino, c'est un livre doux et rassurant pour faire de l'obscurité une alliée de ses nuits et imaginer tout un tas d'aventures à ses jouets. C'est aux éditions des éléphants, c'est à partir de 3 ans. Autre prénom, Joséphine, de Patricia Ruby Powell et Christian Robinson, aux éditions de La Rue du Monde à partir de 8 ans. Oui, portrait de Joséphine Baker, d'une artiste audacieuse, mais surtout femme engagée contre la ségrégation raciale aux États-Unis, puis dans la résistance et au service des enfants. Alors on le sait, une enfance dans une famille pauvre, à Saint-Louis, dans le Missouri, berceau du ragtime, où tout le monde aime la musique. Sa mère récure les sols.
Même si elle aurait préféré danser dessus.
À peine née, la petite Tumpy fait des grimaces, danse, raconte des histoires et même faillit se faire amputer d'une jambe.
Je n'avais pas de bas de laine, je devais bien danser pour me réchauffer.
Et à cette époque, les Noirs divertissent les Noirs et les Blancs divertissent les Blancs.
Mais elle transforme ses révoltes en danse. Willie Baker, qu'elle trouve élégant dans son bel uniforme d'employé des wagons-lits, lui donnera son nom.
Elle chante, elle danse à New York, mais...
Il n'y a donc aucun endroit au monde où la couleur est sans importance, réservée aux Blancs.
Alors c'est Paris, la revue nègre, volcan intérieur, coulée d'une superbe lave, chaque soir d'un bond vers les étoiles. Énorme succès, explosive Joséphine, scandaleuse, non, libre et amusée.
La France a fait de moi ce que je suis et je suis prête à donner ma vie pour la France.
Alors Croix-Rouge, espionnage, résistance, puis après-guerre, adoption de 12 enfants.
Ma tribu arc-en-ciel. Nous allons montrer que la haine raciale n'est pas quelque chose de naturel.
Elle sera quand même expulsée sous la pluie avec ses enfants. Et à 77 ans, elle est enfin bien accueillie au Carnegie Hall dans son pays.
Et elle mourra comme elle le souhaitait, épuisée à la fin d'une danse.
Album alors tout à fait tonique, bien documenté, illustrations à l'acrylique, des variations typographiques qui donnent vraiment le rythme de l'ouvrage. Alors bienvenue au Panthéon, Madame Baker, Joséphine, c'est aux éditions de La Rue du Monde, c'est à partir de 8 ans. Merci à Christophe Imbert pour sa réalisation, à Lucie Cosmala, Eric Oswald, Denis Chessou, nous vous souhaitons de belles lectures, et à vous Dorothée et à tous, une bonne fin d'émission.
Et rendez-vous sur le site de France Inter, bien sûr, à la rubrique « L'as-tu lu, mon petit loup ?» pour retrouver les références des livres ici conseillés. Je suis avec Timothée de Fombelle et Lucie Félix à l'occasion du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse qui ouvrira ses portes à Montreuil la semaine prochaine. Et il est temps de vous poser une question importante, question rituelle dans Barbatruc. J'aimerais connaître l'odeur de votre enfance, Lucie Félix.
Alors moi, sans hésiter, c'est l'odeur de la résine de sapin.
Voilà les sapins infusés.
Exactement, mais vous ne croyez pas si bien dire, parce que mon papa était bûcheron avant de prendre sa retraite. Donc quand il rentrait, donc quand il fait chaud, la résine des arbres coule par petites gouttes. Et donc mon papa qui passait ses journées en forêt rentrait couvert de résine et ça sent bon.
C'est fort, hein ?
C'est hyper fort, ça sent très bon.
Et vous, Timothée de Fombelle, quelle est l'odeur de votre enfance ?
J'aurais, je pense, une réponse différente tous les jours. Mais tout à l'heure, comme j'ai parlé de ce moment en Afrique, là c'était d'ailleurs au Maroc, dans le nord de l'Afrique, j'ai un souvenir très précis, comme on est au moment où on est des éponges sensorielles à 4 ans, 5 ans, l'odeur du sésame grillé. Le sésame grillé sur ces petits pains plats, là, c'est quelque chose qui me bouleverse toujours aujourd'hui et j'en ai un souvenir très, très, très précis.
Et vous confirmez que les odeurs sont d'excellents moyens de voyager dans le temps?
Oui, et puis en plus un sens qu'on peut très peu utiliser avec dans le livre, qu'on peut ni dans le cinéma, ni dans les arts. Il y a heureusement l'art du parfum. Bon, si l'odeur du papier, je reconnaîtrais la Bibliothèque Rose ou facilement à l'odeur du papier et l'âge du livre d'ailleurs aussi à l'odeur du papier.
L'odeur de résine d'un papa bûcheron et le sésame grillé d'une enfance au Maroc. Très belles odeurs qui rejoignent notre inventaire olfactif de l'enfance. L'enchanteuse, c'est à mettre entre les mains des enfants à partir de 10 ans pour les voir dévorer ce livre dans des positions pas possibles, donc les jambes en l'air. Deuxième tome de la trilogie Alma, signé Timothée de Fombelle chez Gallimard Jeunesse, illustration de François Place, roman d'aventure flamboyant, vivement recommandé, tout comme les ouvrages de Lucie Félix pour les tout petit cette fois, aux éditions des grandes personnes. J'aime énormément, je le disais, prendre et donner. Un livre dans lequel il faut attraper une forme dans une page et la remettre dans une autre. Mais aussi, Ariki, ou encore la promenade de Petit Bonhomme. Toute la liste est à retrouver sur notre site internet à la page de Barbatruc et le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil, c'est à partir du 1er décembre. Merci mille fois à tous les deux et à bientôt sur France Inter.
Merci.
À bientôt.